France Inter.
France Inter. Le 18-20. Éric Delvaux.
Au téléphone sonne ce soir, quelle place accordons-nous encore à la lecture? C'est en marge du Festival du Livre qui s'ouvre à Paris. Ce livre que nous aurions tendance à délaisser un peu, c'est ce que dit le dernier baromètre Ipsos pour le Conseil National du Livre. Il faut dire que nous sommes de plus en plus sollicités ailleurs, du côté d'Internet notamment. Et ça ne concerne pas seulement la jeune génération, on verra ça dans un instant. Alors ce livre, en perte de vitesse au final, est-ce si grave que cela? Certains de nos invités diront qu'il existe d'autres formes de récits et que c'est peut-être le plus important. On se demandera au passage si l'intelligence artificielle pour la littérature est un atout ou bien une tombe. L'objet livre est-il condamné à disparaître? On posera là aussi la question ce soir et puis nous nous demanderons également si les politiques publiques qui soutiennent le livre et sa lecture restent efficaces. Et puis une citation, ça ne fait jamais de mal. Voici l'une de Kant. Chaque lecture est un acte de résistance. Une lecture bien menée sauve de tout, y compris de soi-même. On attend vos questions, vos témoignages. Le téléphone va sonner jusqu'à 20h.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Avec trois invités ce soir pour vous répondre, Régine Atchondo, vous êtes la présidente du Centre National du Livre et nous commenterons ensemble ce baromètre publié mardi avec Ipsos sur le rapport que les Français entretiennent avec le livre et la lecture. Alexandre Geffen, vous êtes directeur de recherche au CNRS, spécialiste des nouvelles formes de littérature et critique littéraire. Et puis Romain Gaillard, responsable du livre du service jeunesse à la Bibliothèque Nationale de France. Vous êtes aussi conservateur en chef des bibliothèques. Bonsoir à tous les trois. Régine Atchondo, je vais commencer par vous. Ce baromètre bisannuel du CNL, il montre que globalement, le nombre de lecteurs et de lectrices a diminué depuis 2 ans. Et ça, quelles que soient les catégories sociales. Hein.
Oui, quelles que soient les catégories sociales. Et d'ailleurs, le grand écart qui existait entre les CSP+ et CSP- est en train de se réduire.
Les lecteurs réguliers n'ont donc jamais aussi peu lu depuis 10 ans, c'est marquant. Vous y voyez une tendance de fond ?
Oui, on y voit une tendance de fond qui d'ailleurs ne nous a pas surpris. Peut-être ce qui nous a surpris, c'est effectivement la tranche des plus de 50 ans qui se met aussi à lire moins, alors qu'ils étaient fidèles à la lecture, que ce soit sur support papier ou numérique. Hein, on n'est pas du tout en train de juger l'objet de lecture. Donc on n'était pas totalement surpris en dehors de cette tranche d'âge et en même temps, quand on voit, il suffit d'observer les comportements que nous avons tous, d'ailleurs, avec ce que Damasio appelle le doudou du 21e siècle, qui est notre smartphone, dont on caresse la fenêtre avant de s'endormir, et le matin, quand on se réveille, nous ne sommes pas très surpris.
La jauge, en moyenne, c'est d'avoir lu combien de livres par an ?
On considère un grand lecteur lorsqu'il a lu plus de 20 livres par an, et là, on a beaucoup observé ceux qui déclarent lire 5 livres par an.
Alexandre Geffen, vous êtes, je le rappelle, directeur de recherche au CNRS, spécialiste des nouvelles formes de littérature. Vous êtes aussi critique littéraire. Le déclin de la lecture, eh bien vous, ça ne vous inquiète pas plus que ça. Le plus important à vos yeux, c'est peut-être qu'il existe d'autres leviers pour partager le récit. C'est ça qui vous semble le plus important?
Le récit, la fiction, le rapport à l'altérité hein, qui se joue dans le roman, dans la lecture traditionnelle, peuvent aussi exister dans d'autres formes de lecture, parce qu'en fait, lecture, on parle de lecture de livres sur le modèle du roman traditionnel. En réalité, la lecture s'est démultipliée. Les ados lisent des mangas, lisent des BD, lisent des documentaires. Et dans une certaine mesure, les réseaux sociaux peuvent être aussi des espace de lecture. Un phénomène qui me paraît fondamental, c'est que la lecture est de moins en moins isolée de pratiques d'écriture. Hein. On produit, on écrit en permanence, on écrit des romans sur Wattpad, on écrit des bons mots sur les réseaux sociaux. Et c'est cette transformation-là que j'observe et qui me semble tout à fait intéressante.
Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, je reviens vers vous, Regina Tchondo. Bon, on a quelqu'un qui nous dit, si le récit existe et avec d'autres supports et d'autres genres, d'autres façons d'aborder l'écriture et la lecture, c'est pas si grave que ça que les livres soient en petit déclin.
Alors, non, bien sûr, je ne suis pas d'accord. Mais en revanche, je suis tout à fait favorable au manga, à la bande dessinée. Enfin, j'ai aucun problème avec ça, à la new romance qui séduit beaucoup les jeunes filles. Peut-être moins à la dark romance parce que je la trouve assez hard, mais c'est peut-être pas ma génération.
On en parlera un petit peu.
Mais je trouve que
ça,
c'est quand même très hard. Je ne suis pas du tout d'accord parce que, au fond, évidemment, on peut faire des choses tout à fait intelligentes sur son smartphone. Il y a plein de formes de. Souvent, c'est ceux qui ne lisent pas qui sont les plus. Les proies les plus aisées à attraper par l'enfermement algorithmique dans lequel les GAFAM ont choisi de nous mettre. Et ce sont ceux qui sont plutôt éclairés, la lecture contribue à être éclairée, qui se laissent moins prendre. Et puis par ailleurs, surtout, au fond, moi je m'en remets aux instituteurs, aux professeurs d'université, aux instituteurs de collège, je m'en remets aux profs de seconde, première et terminale, et beaucoup aux pédopsychiatres, aux pédopsychologues, pour juste voir que là-dessus il y a une unanimité totale sur le fait que le déclin de la lecture, mais aussi celle du sport, que le smartphone certainement encourage aussi à moins fréquenter, et crée chez les enfants des comportements, en tous les cas, de mal-être qui sont inquiétants. Donc moi, je m'en remets à ceux qui s'occupent des enfants, en fait.
Romain Gaillard, vous êtes donc le responsable du service jeunesse à la Bibliothèque nationale de France, vous êtes conservateur en chef des bibliothèques. Est-ce parce que les jeunes ont un smartphone au bout de leur bras en permanence qu'ils ne sont plus capables d'attraper un livre ?
Non, je pense pas, parce que en fait, on constate, quand on regarde de manière très longitudinale l'ensemble des pratiques de lecture, que quand on croise ça avec différentes études sur la possession d'autres supports numériques, d'ailleurs d'autres terminaux, comme les tablettes, les consoles de jeux portables et de salon, que les jeunes pourraient finalement moins lire encore que ce qu'on peut constater dans les différentes enquêtes de pratiques de lecture. On a eu ces dernières années beaucoup d'augmentation dans les familles de la présence des consoles de jeux de salon, une rationalisation sur les tablettes par exemple, une rationalisation sur les consoles de jeux portables. Il y a eu également une grande démocratisation des ordinateurs portables par rapport à ce que c'était au début des années 2000. Et au final, on a sur les enfants, sur les petits ados aussi, c'est un petit peu plus compliqué sur les grands ados parce qu'ils sont captés par tout un tas d'autres choses aussi, toujours un fort maintien de l'amour, de la lecture, de l'envie de lire, même s'ils y consacrent effectivement moins de temps, et on le voit dans les enquêtes faites par le CNL notamment.
Donc vous aussi, vous êtes optimiste. Devant tant de sollicitations, vous restez optimiste sur le temps que les ados consacrent à la lecture.
Je suis ni optimiste ni pessimiste. Je suis en vigilance, mais je trouve qu'on est dans une époque aussi qui est assez fascinante parce que elle est marquée à la fois par une très grande créativité, une très grande richesse en matière de littérature sous toutes ses formes, et également par le développement aussi de nouvelles formes de création, qu'elles soient faites par des artistes, par des auteurs, des autrices, que par des individus comme Monsieur Geffen en a parlé.
Regina Tchondo, est-ce que tous les genres littéraires sont concernés par cette baisse du nombre de lecteurs, ou est-ce qu'il y a des genres qui s'en sortent mieux que d'autres ?
Alors, jusqu'à l'an dernier, les mangas avaient réalisé une progression tout à fait exceptionnelle.
Surtout chez les jeunes, je crois.
Oui. Surtout chez les jeunes, mais qui s'est tari, enfin en tous les cas qui est en baisse. La romance continue d'occuper une place importante dans la littérature jeunesse, auprès plus des jeunes femmes. Quelques garçons lisent de la romance, mais ils sont beaucoup moins nombreux. Le roman reste la première lecture des Français de plus de 15 ans. Les guides pratiques, bien-être, etc. Progressent bien, mais manga, BD, baisse. Ce qui n'est pas non plus bon signe, parce que c'était quand même des lectures que les jeunes aimaient bien. Donc ça contribue d'ailleurs à nous inquiéter sur le rapport au livre, une fois de plus, ou à la lecture par le biais du numérique.
Eh bien, racontez-nous ce soir votre rapport au livre, votre rapport à la lecture. Nous sommes au Standard de France Inter, 01 45 24 7000. Elisabeth nous appelle. Bonsoir Elisabeth.
Oui, bonsoir à tous. J'étais en train de faire ma petite cuisine quand je vous écoutais. Alors moi, j'ai 80 ans. J'adore lire parce que ça m'a beaucoup aidée dans ma vie solitude à Paris. Et mes enfants lisent, mes filles lisent et ma petite fille aussi. Alors moi, par contre, comme je ne peux plus prendre les livres dans mes mains, je suis sur une liseuse la nuit et c'est très agréable. Et bon, j'aime les bons films aussi. Ma petite fille lit beaucoup aussi. Et ben, je vais vous dire, elle se fait traiter d'intello. Mmh. Elle travaille très bien, vous voyez. Maintenant, c'est presque connoté d'aimer la lecture. Ils sont tous sur leur portable et c'est vrai que c'est désespérant.
Merci beaucoup de ce témoignage, très intéressant. D'abord vous concernant, 80 ans, vous lisez avec une liseuse.
Oui, maintenant, oui, je suis obligée.
Mais on comprend très bien. Je me retourne encore vers Regina Tchondo, parce que ça fait partie aussi des critères que vous avez soulignés dans votre enquête et votre baromètre Ipsos. L'objet livre a moins la cote, le format papier est grignoté par les liseuses, et pas seulement par ceux qui ont 80 ans.
Oui, oui, bien sûr, mais c'est pas du tout, enfin, c'est même si les neurologues disent que l'effet produit sur le cerveau et sa plasticité ne sont pas les mêmes, mais moi je ne suis pas scientifique, on n'a absolument rien contre la lecture sur liseuse pour madame qui a 80 ans et pour les jeunes. Mais quand on pose la question de « est-ce que vous lisez ?», on pose bien la question sur tout support, hein, on n'est pas du tout, on n'ostracise pas le livre sur support numérique.
Alexandre Geffen, directeur de recherche au CNRS, spécialiste des nouvelles formes de lecture et critique littéraire. Je reviens au témoignage de notre auditrice qui a 80 ans. Elle parlait de sa fille. Les gamins qui lisent aujourd'hui sont traités d'intello. Et quand on dit traités, c'est jamais gentiment. Hein. Il y a quelque chose à stabilo-bosser là aussi sur le rapport du livre qu'ont les jeunes. Ça crée des groupes, des clans, des communautés.
Alors le rapport à la lecture, ça a toujours été un critère de distinction. Hein, on se distinguait par sa bibliothèque, on se distinguait par ses choix de lecture. Hein, ça a été amplement étudié par la sociologie depuis des décennies. Il est un petit peu triste que cette distinction devienne négative, effectivement. Je ne voudrais pas qu'on me fasse dire que je ne crois pas dans l'importance des livres, de la lecture profonde, de l'immersion dans la littérature longue, celle qui nous transforme, celle qui nous fait vivre autrement, d'autres vies que la nôtre. Mais il n'en est pas moins qu'il faut accepter l'idée que la lecture soit en concurrence avec d'autres pratiques culturelles. C'est le cas depuis très longtemps. Et d'abord, il y a eu le cinéma. On s'est inquiété que le cinéma remplace la lecture pour amener les gens dans des fictions. Il y a eu ensuite la radio. On s'est inquiété que la radio capture l'attention. Il y a eu la télévision. Donc c'est une inquiétude qui est aussi ancienne, finalement, que la naissance des autres médias audiovisuels au XXe siècle.
Donc la fantaisie littéraire, d'ailleurs, ça a évolué dans les années 50. Cette littérature du merveilleux, elle a eu ses histoires racontées par dessin, plus simplement par le livre. C'était une évolution. On avait craint un peu cette fantaisie littéraire, on avait tort.
Chaque innovation, chaque nouveau média fait changer les médias antérieurs. Et vous le remarquerez, on a de plus en plus une littérature de non-fiction dans la littérature française contemporaine, celle d'Annie Ernaux, celle d'Emmanuel Carrère, qui peut-être vient là parce que la fiction, on la voit plus dans les séries ou dans des textes un petit peu aux marges de la littérature traditionnelle comme la fantasy.
On va retourner au Standard 01 45 24 7000. Alain nous appelle de Loire-Atlantique. Bonsoir Alain.
Bonsoir. Puis encore merci pour toutes vos émissions. C'est wow.
C'est gentil.
Ouais. Non, oui, c'est vrai que par rapport à la lecture, moi je suis un grand lecteur de BD, mais les enfants aussi sont très grands lecteurs de BD. Je m'intéresse à différents types de livres, peu importe, je veux dire, la nature, mais malheureusement j'en entame un ou deux, trois, puis là j'en ai 15. Alors je reviens d'un livre à l'autre, mais mon épouse aussi, qui est malheureusement qui a une maladie génétique, elle adore aussi. Elle adorait lire les livres, puis maintenant elle s'est mise à l'audio, au livre audio. Et ça lui fait énormément de bien.
Merci de ce témoignage. Romain Gaillard, je vais revenir à vous dans un instant, mais on parle de ces comportements qui évoluent, c'est ce que vous avez étudié, Alexandre Geffen. Le livre passe à l'audio, passe au podcast, et c'est la voie naturelle, selon vous.
cette capacité de la littérature à circuler, elle est fondamentale. Hein. Le livre est adapté au cinéma, adapté en série, adapté en BD, décliné en livre audio. Et je crois qu'il faut penser en termes de complémentarité. Enfin, notre cerveau est une sorte d'écosystème qui a à la fois besoin de moments de lecture longue et puis de moments beaucoup plus rapides, en faisant autre chose parfois.
Romain Gaillard, quelques questions sur le rôle des bibliothèques. Je me tourne vers vous, vous êtes responsable du service jeunesse à la Bibliothèque nationale de France, conservateur en chef des bibliothèques. La bibliothèque, c'est un rite, c'est pour cela que vous lui créditez encore un avenir ?
Oui, on le voit dans les rythmes de fréquentation, c'est un rythme d'abord familial, c'est d'ailleurs surtout les mamans qui l'assurent. On voit que c'est encore quand même, dans les études, que c'est quand même assez genré, la fréquentation de la bibliothèque en famille, le mercredi matin, le mercredi après-midi, et le samedi matin, c'est plutôt les papas qui s'en occupent. Il y a vraiment des répartitions assez intéressantes, et effectivement, on voit que quand on commence assez tôt, même dès la naissance, parce que lire, c'est bon pour les bébés, on le sait depuis quand même plusieurs décennies.
Expliquez-nous ça, lire, c'est bon pour les bébés.
Oui. En fait, c'est des travaux faits par des psychanalystes il y a quelques décennies qui ont donné une association qui s'est appelée Accès. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un parent va lire une histoire ou va raconter ce qui se passe dans un album cartonné à son enfant, à son bébé, le bébé reconnaît sa voix et du coup, ça crée de l'interaction avec son parent. Et on commence même à avoir des études qui démontrent qu'il faut même raconter des histoires à son enfant quand il est encore dans le ventre de la maman, et ça peut être bénéfique à des enfants qui sont en très grand prématuré, puisque c'est l'occasion pour lui de se rassurer par la voix de sa maman et de son papa qui peut entendre.
On entendait le témoignage de cet auditeur, Régina Tchondo, qui racontait l'importance des livres. Et j'entendais un peu les livres audio dans votre baromètre Ipsos. Oui. Quel est le succès des livres audio ?
Oui, ils progressent bien et on s'en réjouit. D'abord parce que c'est très agréable d'écouter un récit, quel qu'il soit. Et puis parce que c'est aussi une passerelle pour donner envie de lire, mais peut-être que pour revenir sur... ce que vous disiez, je pense quand même que beaucoup d'anthropologues, de philosophes sont d'accord pour dire que rien n'est comparable à l'arrivée de la télévision, du cinéma, de la radio, avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire un objet qu'on a dans sa poche.
Parlez bien devant le micro.
Un objet qu'on a dans sa poche, qui est quasi greffé sur notre corps, et qui prend tout notre temps disponible. Donc, c'est pas la même chose, une fois de plus, que d'être détourné par aller écouter de la musique à un concert, ou regarder un film au cinéma, ou y compris une série à la maison. C'est pas cette question-là. C'est la question de l'évolution de l'espèce humaine, sans cette concentration du temps long qui est en train de disparaître.
Eh bien, expliquez-nous ce soir, les auditeurs, votre rapport au livre, à la lecture, sous quelque forme que ce soir. On en parle ce soir jusqu'à 20h.
France Inter. Le téléphone sonne.
Jean-Christophe est à Bayeux. Bonsoir Jean-Christophe.
Bonsoir, merci beaucoup de prendre mon appel et merci à France Inter d'être ce que vous êtes.
C'est gentil.
J'appelais en tant que... parce que il se trouve que je suis pédiatre, je suis aussi papa. D'abord, je voulais rebondir juste rapidement sur ce que j'ai entendu, sur le fait que moi, j'ai toujours lu des livres à mes enfants dès le ventre de la maman et leur raconter des histoires et que je pense que c'est indispensable. Non, c'était plus pour dire que je suis intimement convaincu que chez l'enfant, on a un rôle en tant que parent et en tant qu'adulte dans le fait de leur faire aimer le livre, de leur faire partager du livre très tôt. Et jusqu'à 5, 6, 7, 8 ans, ils vont partager, ils vont être dedans. Et peut-être qu'après, ils décrochent, mais on se rend compte qu'on a planté une graine et que tous ces jeunes qui ont été confrontés au livre très tôt et pendant leurs premières années se retrouvent après être des vieux ados, jeunes adultes qui se remettent à lire. Et qu'en fait, on plante une graine qui va germer après. Et je trouve ça indispensable, en fait. Faut jamais, c'est pas parce qu'un enfant de 12, 13 ans ne lit plus qu'il ne lira jamais. Pardon.
Merci beaucoup de ce témoignage qui est plein d'espoir, là aussi. Il faut semer la graine de la lecture, Romain Gaillard. Vous le disiez, parler de livres, lire un livre au bébé.
Oui, tout à fait. Même si c'est quelque chose qui est extrêmement important, de développer comme ça des temps familiaux. Et puis, il y a le temps de lecture du soir qu'on connaît tous hein, beaucoup. Et quand l'enfant commence à lire par lui-même, des fois, bah, il dit « Non, non, je veux plus que tu me lises d'histoire. » Ça m'arrive en ce moment avec l'une de mes filles, donc je me sens un petit peu démuni certains soirs. Et puis, quelques semaines après, ça change. Elle veut à nouveau qu'on lui lise des histoires. Donc, tout ça, finalement, il n'y a pas de vérité définitive. Effectivement, on peut avoir des moments où on a moins envie de lire. C'est valable pour un enfant, pour un ado, pour un adulte aussi. Moi, ça peut m'arriver également. Et en fait, tout ça peut changer finalement avec une rencontre, avec un moment où on se sent un petit peu plus au calme. Et la fréquentation, justement, d'une bibliothèque elle peut aider à ça parce que c'est des moments, par exemple, pour les enfants où ils se sentent bien, ils se sentent plus tranquilles, hein, où ils peuvent prendre le temps.
Expliquez-nous ce que l'on vient chercher, grand ou jeune, adulte, vieux, moins jeune, moins vieux, dans une bibliothèque. On vient chercher quoi ?
Alors, il y a quelques décennies, c'était essentiellement emprunter des livres. Depuis quelques années, ça a beaucoup changé, parce que l'activité d'emprunt, elle n'est plus pratiquée que par une minorité de personnes. On a parfois 4, 5, 6 usages différents d'une bibliothèque. On va des fois juste lire sur place, on va s'y retrouver en famille, avec des collègues, avec des amis, parce que c'est des lieux qui sont vraiment de plus en plus agréables. Pour des personnes migrantes, c'est l'occasion d'avoir un accès gratuit à Internet, par exemple, qu'ils ne peuvent pas avoir autrement. On va aussi lire la presse. On n'en a pas beaucoup parlé de la presse, mais c'est quand même quelque chose qui est extrêmement important pour s'informer et aussi pour se construire. On va y rencontrer des artistes, des auteurs, participer à des ateliers créatifs, par exemple. Donc ça devient vraiment des lieux de vie, hein, des lieux de sociabilité qui sont vraiment extrêmement populaires aujourd'hui.
Jean-Marc nous appelle. Bonsoir Jean-Marc.
Bonsoir Eric. Je voulais juste faire un témoignage, c'est que avec mon épouse, nous étions de très gros lecteurs, nous lisions chacun entre 5 et 6 livres par mois, et puis malheureusement, mon épouse est décédée il y a une douzaine d'années, et depuis, je n'ai plus jamais réussi à rouvrir un livre. J'ai essayé plusieurs fois, je sais pas quoi vous dire.
Ça vous semble difficile aujourd'hui, maintenant que vous êtes seul, je mets entre guillemets, ça vous est difficile de retomber dans ce plaisir que vous partagiez avec votre épouse, Alexandre Geffen. Le lecteur solitaire avec un livre entre les mains, est-ce que c'est une image qui appartiendra bientôt au passé ?
Alors je ne sais pas, mais c'est en tout cas une image qu'on a fétichisée, qu'on a construite comme étant le moment où l'individu revenait à soi, construisait son identité, trouvait son imaginaire et le construisait. Mais c'est une image qu'il faut vraiment relativiser culturellement. Je vous entendais tout à l'heure et je me disais, mais vous souvenez-vous de l'angoisse qu'avait eu Platon lorsqu'il a vu l'écrit et le livre arriver et qu'il s'inquiétait de la disparition de l'oralité qui était pour lui beaucoup plus fondamentale que le livre. Donc je crois qu'il faut se méfier des effets de myopie culturelle. Je lis des livres à mes enfants, je considère que c'est absolument une activité merveilleuse, mais je ne suis pas sûr que les parents de William Shakespeare ou d'Isaac Newton leur lisaient des livres alors qu'ils étaient encore dans le ventre de leur mère.
Donc il y a un avenir encore pour le roman traditionnel, même si on met en évidence ce soir d'autres formes d'approche de la lecture. Vous êtes confiant sur l'avenir du roman traditionnel ?
Oui, mais sans le fétichiser.
Régina Tchondo, on va revenir à votre baromètre paru mardi avec Ipsos. C'est encore chez soi que l'on lit le plus souvent et aussi pendant les transports, je crois ?
Oui.
Qu'est-ce qu'on vient chercher en lisant chez soi ? On sanctuarise un peu quelque chose ?
Oui, je pense que c'est vraiment le temps calme. Enfin, ce que vous décriviez à l'instant, le temps calme, le retour sur soi, le fait aussi de pouvoir se relaxer avant la soirée. Alors, les temps de transport, vous avez raison de les citer, parce que c'était vraiment un lieu de grande fréquentation des lecteurs avec leurs livres. Et de ce point de vue-là, la crise du Covid a eu un effet parce que beaucoup de gens ont moins lu compte tenu de cette espace de temps de transport qui a disparu pendant le Covid, et aussi les frontières entre vie professionnelle et vie familiale qui se mêlaient pendant le Covid et qui ont moins donné envie pour beaucoup de lire. Donc, compte tenu du développement du télétravail, les transports aussi, en tous les cas pour les gens qui vivent dans des grandes métropoles, se sont réduits, et la fréquentation donc de la lecture, certainement aussi à cause du temps moindre passé dans les transports.
Question sur les prescripteurs. Quels sont les prescripteurs aujourd'hui les plus influents avant d'acheter un disque, un livre, pardon.
Les copains, les parents, les profs. Internet. On voit apparaître beaucoup, voilà, les réseaux sociaux qui n'ont pas que des défauts et qui peuvent donner très très envie aux jeunes de lire, de découvrir des livres. Il y a aussi des clubs de lecture qui s'organisent sur le plan virtuel, de communautés de lecture qui partagent leurs goûts, et ça c'est très jubilatoire de se dire qu'il y a un relais qui est pris par les réseaux sociaux.
Ça veut dire aussi que les librairies attirent moins, on va acheter son livre ailleurs désormais, les librairies perdent un peu de leurs clients.
Dans ce baromètre, les librairies perdent un peu de clients. Les clients aimeraient trouver autre chose que des livres en librairie. Bon, une vraie question, en tous les cas une question d'avenir, parce qu'il faut entendre aussi ce qui nous est dit. Là où les libraires restent très très forts, c'est sur la prescription. Pour ceux qui fréquentent les librairies.
Et on a en mémoire, enfin en mémoire même pas, les petits cartons rédigés à la main, manuscrits.
Les coups de cœur à la main.
Les coups de cœur à la main du libraire. Olivier est en ligne. Bonsoir Olivier.
Bonsoir à tous. Je vais faire très vite pour deux points, pour revenir sur des choses qui ont été dites. Je travaille pour Bayard Presse, rayon jeunesse et tout ça, je travaillais. Et donc on a eu beaucoup de bouquins pour nos enfants et on leur a donné goût tôt à la lecture. Et vous parlez de Shakespeare, Platon, ont-ils lu ? Non, mais par contre, mes filles, elles ont beaucoup plus de vocabulaire que ceux qui lisent pas, par exemple, ou peu. Il n'y a jamais eu d'ostracisation, en revanche, dans ce qu'elles connaissent de leur scolarité entre ceux qui lisent peu ou pas. Ça, non. Et en revanche, la prescription, il y a aussi vous, Inter, moi quand je vais dans ma librairie à Tours, dès que vous avez parlé d'un bouquin, il est dans un corner parce que ça attire moi, par exemple. Et donc, il me manque un truc à la radio, puisque vous êtes un truc audio, où vous faites de la revue de bouquins, et moi, qui à cause de mon cancer, en fait, je vois très mal, j'ai dû me reporter sur des livres audio, mais je ne peux pas en avoir correctement l'actualité parce que je ne peux pas la lire. Et vous, quand vous parlez de bouquins, vous ne faites jamais l'info de « d'ailleurs, il existe une version audio, on l'a testée, elle est bonne, c'est comme un théâtre audio ». Et ça manque en fait sur Inter, enfin sur une radio, de parler à des auditeurs. Puisque moi, il ne me reste que ça et la radio pour m'occuper en fait. Donc quand je vais marcher, tout ça, ou à la maison… les livres audio, je suis en quête et donc ça pourrait être fait.
Mais on l'entend. On l'entend, Olivier, merci de ce témoignage. On l'entend que lorsque nous faisons, nous aussi, des prescriptions, on ferait bien aussi de rappeler que ce livre existe en version audio et même de d'évaluer la valeur de la qualité de cet enregistrement de livre audio. On va y penser. Merci beaucoup de cette suggestion, Olivier. Romain Gaillard, vous estimez que le livre coûte cher aujourd'hui encore en France ?
Alors oui, c'est vrai que c'est un objet qui peut coûter cher pour une famille. On voit, par exemple, justement ce matin, je regardais certains livres qu'on avait reçus, on voyait un album qui coûtait 15€, 16€, c'est quand même cher pour une famille, c'est l'équivalent de quasiment un repas familial. Donc effectivement, ça peut être un objet qui coûte cher, c'est aussi lié à toute la mobilisation des compétences et talents qui sont nécessaires pour sortir un livre. Il n'y a pas que les auteurs, les autrices, les artistes, il y a aussi toutes les équipes derrière, la fabrication, etc. Donc, mais c'est aussi pour ça qu'on constate une forte augmentation du marché de l'occasion, parce que les familles ont tendance depuis 2-3 ans à se reporter sur soit des plateformes de vente de livres, de vente d'occasion, hein, pas que de livres d'ailleurs, soit vers des ressourceries, des recycleries, et on peut y trouver du coup des livres qui sont en très très bon état, hein, qui sont de très grande qualité aussi, voire des livres qui ne sont plus disponibles dans le commerce, parce qu'il y a des fois des cycles assez courts de publication, hein, de titres récents par les éditeurs, pour des problématiques de rationalisation économique. Et ce marché de l'occasion, c'est vraiment un sujet depuis 2-3 ans qui s'est énormément développé, mais qui permet de continuer à avoir du livre à la maison.
Et d'ailleurs, on l'a entendu dans le journal de 19h, il est question d'imposer, ou en tout cas d'associer des droits d'auteur sur les livres d'occasion. On va rappeler que sur un livre d'occasion, l'auteur, l'autrice ne touche rien. Ça vous inspire quoi, Alexandre Geffen? Ce livre d'occasion qui est devenu un grand marché, hein, qui monte de plus en plus. Je pense que, d'ailleurs, dans votre étude Ipsos, vous le soulignez. Allez donner un droit d'auteur pour qui aille dans les livres d'occasion. Pour les auteurs et pour le monde de l'édition, c'est une bonne voie à explorer.
Alors, là, j'exprime juste un avis très personnel. Moi, je suis tout à fait contre. Je pense que c'est absolument pas un service à rendre à la lecture que de taxer en plus le livre d'occasion.
Et votre réaction à vous, Régine Atchondo, la présidente du Centre National du Livre?
Moi, j'y suis tout à fait favorable.
On n'arrivera pas à vous mettre d'accord ce soir, hein. Mais c'est pas bien grave.
J'y suis tout à fait favorable. Évidemment, il ne faut pas que ce soit une contribution qui fasse perdre l'intérêt du prix du livre d'occasion plus bas par essence que le livre neuf. Mais je suis tout à fait favorable parce que je trouve que ça existe dans beaucoup d'autres secteurs artistiques et que la préservation des auteurs qui vivent pour certains dans des conditions difficiles pour mille et une raisons, et le retour sur investissement pour l'éditeur ne me paraît pas du tout choquant.
Parce que c'est la création même qui serait menacée, c'est ce que disait la représentante de Gallimard ce soir.
Oui, tout à fait. Je pense que c'est d'ailleurs pour ça que les éditeurs et les auteurs se sont mobilisés pour réfléchir à une contribution qui ne soit évidemment pas...
plombante.
Bah, évidemment.
Et encore faut-il que ce soit conforme au droit européen. Il y aura une suite.
Sur le plan juridique, savoir si il est possible de l'inventer.
Et on suivra ça évidemment sur France Inter. Julie, 01 45 24 7000. Julie nous appelle d'Indre-et-Loire. Bonsoir, Julie.
Bonsoir.
Quelle est votre question ou votre témoignage?
C'était plus un témoignage, je voulais témoigner parce que je me sentais pas forcément représentée par vos précédents interlocuteurs qui sont des fois plus âgés que moi, étant donné que je suis une jeune femme de 23 ans, et du coup je voulais apporter mon témoignage.
Eh bien, allez-y avec plaisir.
Merci. En fait, tout simplement, je voulais expliquer que, en effet, les écrans ont quand même une part concernant notre concentration. Alors moi, je constate personnellement que je suis moins concentrée sur du papier que sur de l'écran. Mais finalement, on passe aussi par de la lecture sur nos écrans. En fait, les articles de presse, moi, je me renseigne essentiellement sur mes écrans, que ce soit ordinateur ou téléphone. Et même, on peut lire tellement d'autres choses sur nos écrans que finalement, on a peut-être moins, en effet, cette habitude de consommer du papier. Cependant, ça peut arriver qu'on retourne des fois à du papier, mais peut-être plus par des lectures qu'on a eues plus jeunes, comme par exemple de la bande dessinée ou des romans jeunesse. On a un petit peu la nostalgie de ce retour-là, où je vois, j'ai consommé de la lecture jeunesse, où maintenant j'y retourne en tant que jeune adulte. Et aussi, il y a aussi le fait très concrètement des fois, on n'a plus le goût de lire parce que ce qui nous attirait ne nous attire plus. Ou finalement, on achète un livre et en fait, on se rend compte qu'au bout de plusieurs dizaines de pages, on n'accroche plus à l'histoire. Donc finalement, on se réfrène dans l'achat de livres et des fois, on préfère en effet se tourner vers du numérique.
C'est très intéressant ce témoignage. Merci beaucoup Julie. Je rappelle que vous avez 23 ans. Alexandre Geffen, je vous retourne ce commentaire. Donc les jeunes qui disent pouvoir faire plusieurs choses en même temps quand ils lisent jusqu'à répondre à leur téléphone, à leur smartphone, ce n'est pas forcément perçu toujours comme un manque de concentration pour eux, mais par une maîtrise des outils.
Moi, je crois qu'on peut faire une certaine confiance, en fait, à la capacité de l'individu de savoir dans quel moment, à quel moment il a envie d'être coupé du monde, à quel moment il a envie d'être dans l'interaction, à quel moment il a envie de surfer sur des réseaux sociaux, de trouver du romanesque sur TikTok, et à quel moment il a envie de passer à Maïs de Kerangal. Les choix peuvent être pluriels. On peut avoir à la fois Marcel Proust et Game of Thrones dans notre vie culturelle. Et je pense qu'avoir des discours très, très prescriptifs, paternalistes, sur ce que les gens doivent faire, comment ils doivent le faire, ajouter des taxes au fait qu'ils arrivent à dénicher des petits bouquins d'occasion de manière un petit peu surprenante et pour rien, ne me semble pas des bonnes solutions.
Régina Tchondo, sur cette concentration, là encore, elle apparaît dans votre baromètre bisannuel, hein, je crois.
Oui, oui, bien sûr, la concentration, en tous les cas, la concentration va avec, je pense, le fait d'avoir envie de se plonger dans un récit, quel qu'il soit d'ailleurs, que ce soit audio, numérique ou livre papier. Et ça, c'est ce que les enseignants notamment constatent très très fortement et dont ils se plaignent, c'est le fait que cette concentration-là baisse beaucoup. Et ils le constatent d'ailleurs pas uniquement sur la lecture, hein, mais sur l'ensemble des activités qu'ils essayent de développer avec leurs élèves.
Romain Gaillard, depuis 15 ans, les politiques publiques ont favorisé les constructions de bibliothèques. Quel bilan faites-vous ?
Je trouve qu'il est, d'ailleurs, c'est pas que depuis 15 ans, c'est depuis plus de 40 ans même, depuis Jack Lang, la création de la direction du livre et de la lecture, on a eu la création de du site François Mitterrand de la BNF, on en a encore parlé au moment des 30 ans de l'ouverture du site François Mitterrand il y a quelques jours. C'est un mouvement depuis une quarantaine d'années qui effectivement a potentiellement multiplié par 8,5 le nombre de bibliothèques publiques en France depuis plus de 40 ans, et on le voit au fait que ce sont des millions de personnes chaque année qui fréquentent les bibliothèques publiques. Alors, des fois, on a encore une bonne partie de la population française qui pense que c'est pas pour eux, que c'est très bien, mais que c'est pour d'autres personnes, parce qu'ils n'ont pas les codes, parce qu'ils ne se sentent pas autorisés à y aller. Mais on voit qu'aujourd'hui, les bibliothèques, c'est devenu le deuxième lieu préféré de lecture pour les jeunes. Hein, ça a monté petit à petit depuis une quinzaine d'années, aussi parce qu'il y a eu des programmes de l'État avec les collectivités locales, comme Première Page, comme les contrats trajectoires à lecture, et ça, c'est quand même plutôt bien.
Eh bien, merci à tous les trois. Le téléphone sonne, c'est terminé. Dans un instant, le flash de 20h. À 20h10, ce sera l'heure philo. Patricia Martin recevra notamment Roger Paul Droit pour son livre Alice au pays des idées. Patricia, on n'a plus le temps. Alice au pays des idées en deux mots.
Je sens que je vais me faire gronder, mais parce oui. que je suis arrivée en retard. Alice au pays des idées, mais d'où sortez-vous ça? Oui, c'est Roger Paul Droit
qui sera votre invité.
Avec Paul Audy, on va essayer de voir comment la philosophie peut être une expérience individuelle.
À tout à l'heure. Patricia,
à tout à l'heure.